1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Yann avec vous en direct sur Canal B pour le grand tout, une sorte de gigantesque assemblage un peu fourre-tout, c'est vrai, mais en beaucoup mieux, qui vous permettra eh bien, aujourd'hui encore de découvrir quelques titres extraits des albums découvertes pour la Ferra Rock cette semaine. C'est le groupe Anna et l'album The Fun, et puis aussi le nouveau disque Chamber Songs pour le groupe We Hate You, Please Die. Ça, ce sera tout à l'heure. Avant ça, eh bien, un petit conseil d'amis, vous brancherez sur Canal B, je l'espère, toutes les deux semaines, le jeudi à 18h pour découvrir Déjà Vu, Pop 60s et au-delà, présenté par Jean Pop qui sera mon invité tout à l'heure pour vous donner quelques pistes qu'il suivra lui assidûment. Et puis avant ça, vous entendrez une interview de Anna Jean qui participe au groupe Junior. Vous auriez dû l'entendre dans l'émission Diggers vendredi dernier, mais en raison d'une erreur tout à fait humaine et assez fortuite quand même, vous n'avez pas pu entendre l'émission, vous avez entendu seulement la rediffusion peut-être lundi matin. Alors voilà, comme j'ai eu le plaisir de parler avec Anna Jean de leur dernier album 3-2-1, et bien on l'écoutera tout à l'heure après que vous aurez entendu un extrait de notre nouveau disque d'or cette semaine, l'impeccable Zeitgeist Impressions. Quelques impressions déjà vues peut-être ou déjà entendues du côté de la pop 60s ou du punk 70s pour les rénaux parisiens de Foot Fight qui sortent leur premier album le 4 octobre prochain. En tout cas, la release party, ce sera le 4 octobre avec un live aux Ateliers du Vent. On les écoute avec la seule reprise que j'ai pu discerner de leur album, le morceau The Night, à l'origine de Frankie Valli and the Four Seasons. C'était sorti en 1972. Ça a été un tube très underground dans les soirées Northern Soul de l'Angleterre jusqu'à la fin des années 70, début 1980. On écoute donc la relecture toute personnelle du titre The Night par Foot Fight. Bonne émission. What I say.
sweetly. If the day could last forever, you would fall in love completely. But the night begins to turn your head around, and you know you're gonna lose more than you found. Yeah, the night begins to turn your head around, and you know you're gonna lose more than you found. The night begins to turn your head around, and you know you're gonna lose more than you found. Yeah, the night begins to turn your head around, and you know you're gonna lose more than you find. Yeah, the night begins to turn your head around.
Belle version qu'on avait découverte en live lors du passage de Foot Fight au Gougou Fest en 2023. Elle figure désormais sur l'album Zeitgeist Impressions, premier album du groupe que l'on recevra dans l'émission Le Grand Tout le jeudi 3 octobre, c'est-à-dire eh bien la veille de leur release party de l'album du côté des Ateliers du Vent. Si vous avez aimé cette basse jouée au Mediator, vous allez aimer celle qui va suivre aussi, extraite en tout cas présente sur le titre Méditerranée du groupe Junior. C'est sur leur dernier album en date, le troisième, 10 ans après les débuts du groupe, intitulé 3, 2, 1, et on l'écoute. Et juste après, la discussion avec Anna Jean.
La chaleur accablante s'ennuie sur le rivage.
Avec Anna Jean. Bonjour Anna.
Bonjour.
De Junior, avec un nouvel album et 10 ans déjà de vie pour ce groupe qui dit qu'il n'est pas forcément nostalgique, mais on entend tout de même quelques souvenirs qui seraient plus nouvelle vague que new wave, mais peut-être que les deux peuvent se mélanger. Anna, tu te vois et vous voyez au sein de Junior tous les trois comme yéyé ou anti-yéyé?
C'est pas facile de dire parce que c'est vrai que finalement, on s'aperçoit qu'une partie de la musique qu'on aime le plus des années 60, c'est les gens qui se moquaient un peu des yéyés. Apparemment qui s'en moquaient, mais qui étaient un peu critiques des yéyés. Stella, par exemple, qui est une petite chanteuse que j'adore, qui faisait un peu, qui se moquait vraiment, qui faisait des chansons, mais qui incarne assez merveilleusement les yéyés, mais tout en étant anti-yéyé. Donc je crois qu'on a un peu les deux, je dirais qu'on a un peu les deux.
Anti-yéyé, ça avait été un terme forgé par Christian Eudlin, qui pensait évidemment à Stella, à Ronnie Bird, à Clotilde, par exemple, en opposition.
Exactement.
en opposition au côté plus guimauve de Johnny, Sheila ou Sylvie Vartan. Il est question de chasser croisés amoureux, de maternité. Les éléments et le cosmos sont omniprésents. Hein. Le soleil, la mer en priorité, la lune aussi. Tu as des inspirations pour écrire les chansons de Junior en étant dans la nature?
Je sais pas si j'ai vraiment de l'inspiration en étant dans la nature, parce que je suis profondément citadine. J'ai grandi à Nice, qui est quand même une vraie ville, et après j'ai émigré à Paris, où maintenant j'habite depuis un long moment, et donc je suis vraiment dans la ville tout le temps. Mais c'est vrai que je crois que ça me manque. Je suis très nostalgique, pour le coup, vraiment nostalgique de la nature, et plus précisément de la mer et de ce que ça fait que de vivre un peu au contact de la mer. C'est très particulier de grandir avec la mer et de voir les gens se baigner. Moi, je ne le faisais pas forcément parce que j'étais jeune et que je trouvais que les gens étaient fous de faire ça parce qu'il ne faisait que, je ne sais pas, 20 degrés. Pour moi, ça, c'était très froid parce que je ne connaissais pas encore l'hiver. Mais les gens se baignent à l'année. Il y a des dames qui se baignent toute l'année et qui nagent vraiment très, très bien. Et aujourd'hui, je suis très nostalgique de ça, des dames qui nagent toute l'année seins nus sur la plage à Nice. Je trouve ça merveilleux maintenant. Je trouvais ça très agaçant quand j'étais adolescente, mais maintenant je suis très nostalgique de ça. Donc c'est pas forcément que la nature, parce que je connais pas la nature. Je crois que j'ai pas grandi avec ça et ça m'est pas familier, mais par contre j'en rêve, je la fantasme, mais j'aimerais bien vivre dans la nature, j'aimerais bien connaître la campagne et savoir faire pousser mes fruits et légumes et avoir ce rapport à la terre et à la nature. C'est quand même merveilleux.
Le soleil a son nom dans un ciel sans voleur.
J'entendais le morceau Méditerranée, le dernier single sorti justement cet été, et qui renvoie à un côté peut-être insouciant des vacances l'été sur la plage, les seins nus, tu le disais. Il y a des échos des années 1960 dans la musique de Junior, évidemment, qui était pourtant pas une époque si dénuée de crainte que ça, parce que finalement on était au début de la guerre froide, il y avait la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie. Comment on a gardé une image un petit peu transformée, d'après toi, de cette époque-là?
Je me suis déjà posé la question, mais je crois qu'il y a plusieurs choses, en tout cas pour moi. La première, c'est qu'on sait comment le film se termine, c'est-à-dire que moi j'arrive après coup, donc je sais comment ça se passe. Je sais que la fin des années 60 et la fin des années 70, même si ça a été tragique dans plein d'endroits, il y a des tas d'endroits qui ont traversé ces décennies-là avec beaucoup de drames. Je sais que la France s'en sort pas trop mal, en tout cas, même si la France à l'étranger, c'est encore autre chose. Mais je sais que c'est des décennies qui sont assez paisibles et qui sont pleines de croissance et d'espoir. Et c'est un moment aussi où je crois que la liberté de la jeunesse, il y a une jeunesse qui se met à exister, qui n'existait pas avant. Il y a aussi quelque chose de... Bon, c'est pas forcément une bonne chose a posteriori, mais la commercialisation de la jeunesse, tout à coup la jeunesse a un pouvoir d'achat, donc on fabrique des disques et des films pour la jeunesse, et tout ça c'est une chose à laquelle je suis très sensible, et je reste aujourd'hui très sensible à cette esthétique-là, parce que je crois aussi que je sais comment le film se termine. Là où moi aujourd'hui, je savais pas du tout par exemple qu'en 2020 il allait se passer ce qui allait se passer, même si a posteriori, c'est pas forcément plus grave que la guerre d'Algérie, clairement, mais c'est vrai qu'on est dans une forme d'incertitude et on est dans une époque où tous les cataclysmes sont possibles et annoncés, qui font que c'est assez rassurant de pouvoir se plonger dans une époque qu'on connaît finalement déjà. On peut la revivre dans une espèce de boucle imaginaire formidable dans laquelle on choisit vraiment ce qu'on aimait le plus. Je crois un peu comme John Waters, finalement. Je crois que je vis un peu les années 60 comme lui les a décrits dans Hairspray, par exemple. C'est un peu ça. C'est pas du tout réaliste. C'est pas du tout les vrais... C'est pas la réalité du tout.
Hairspray, dont on préférera évidemment la version de John Waters que la version de Broadway.
Ah oui, pas du tout. Non, elle n'existe même pas. Je crois qu'elle a jamais... Non, elle n'existe pas, cette version, bien sûr.
L'album sorti justement en 2020, dans une époque très bizarre, 1, 2, 3, a comme une sorte d'écho aujourd'hui avec 3, 2, 1. C'est pas le même disque à l'envers. C'est quoi la différence? 1, 2, 3, on se lance et on le sort quand même. Et 3, 2, 1, bon, bah, c'est un compte à rebours, mais vers quoi?
Alors, je crois que c'était une façon de se dire qu'on allait redécoller, parce que on a mis 4 ans. D'abord, c'est très long. Les deux premières années, on a reporté des concerts qui étaient prévus depuis un petit moment. Et ça a été très difficile de se remettre, parce qu'on n'est pas un groupe, avec une assise très, très affirmée. On est un petit groupe un peu DIY. on s'est produit tout seul pendant des années. Et du coup, de se remettre, on a tous des boulots à côté, de se remettre dans le bain et de se dire qu'on allait réussir à faire un autre disque, ça n'a pas été facile. D'abord parce qu'on avait tous aussi un peu des parcours de vie, on s'était plus ou moins tous lancés dans d'autres choses, quoi. En 4 ans, c'est long, enfin en 2 ans d'abord, et puis ça s'est transformé en 4. Et je crois que le 3-2-1, c'était une façon aussi de se dire qu'on, non seulement c'était un genre de boutade pour rappeler le fait que le 1-2-3, on avait fait un gros plat, puisque juste derrière, ça a été le Covid. Et en plus, pour se donner un élan pour décoller, un truc un peu comme ça, nier. Ça a pas mal changé, Junior, parce que ça fait, comme tu le disais tout à l'heure, ça fait quand même 10 ans. Ça fait un peu fou que ça existe. Au départ, on était 7, et puis progressivement, on était 6, et puis 5, et 4, et puis après 5 à nouveau. Et finalement, ça fait 7 ans maintenant, donc ça fait quand même un petit moment, que le noyau dur n'a pas vraiment changé. C'est Soigniel Zingre qui fait de la batterie et qui chante. Samy Ousta qui fait plus ou moins tous les autres instruments et qui produit le disque, et moi. Et ensemble, tous les trois, ça fait 7 ans qu'on joue ensemble, on enregistre, on fait des concerts, et voilà. Donc ces trois personnes-là, on est vraiment le noyau dur. Maintenant, il y a une quatrième personne qui s'est jointe à nous, à la basse, Lou Maréchal, maintenant, qui est avec nous sur scène, parce qu'on trouvait que c'était dommage de ne pas pouvoir... faire tous les arrangements, qu'on essaye quand même, on aime bien soigner les arrangements, on prend du temps à faire ça. On s'est dit que c'était dommage de ne pas pouvoir les rendre sur scène, parce qu'à trois, on n'avait pas suffisamment de mains. Et on a rencontré Lou Maréchal, qui est un musicien tout à fait extraordinaire, et qui, j'ai l'impression, là maintenant, ça fait quelques mois, j'ai l'impression que ça a tout de suite matché, et on est parti sur la route ensemble, déjà en Angleterre, c'était super.
Western au bord de la mer, on sent la menace, et peut-être qu'elle n'est pas là pourtant, une trompette, on était au bowling de Diano Marina. Il est où, Anna, ce bowling?
Alors Diano Marina, c'est une petite ville dans le nord de l'Italie, qui est, je dirais, à 2 heures à peu près de Nice. C'est une station balnéaire qui est assez moche, je trouve, pas très jolie, c'est pas très traditionnel, c'est un endroit que je pense qui a été rasé pendant la guerre et dans lequel on a construit des grands immeubles pour accueillir des tas de touristes. Et il y a un bowling dans cette petite ville qui est assez délicieux parce qu'il est très kitsch et en même temps, c'est un endroit familial. Et les gens en Italie vont en boîte de nuit avec leur famille, avec leurs enfants, avec les grands-parents. Et 2 fois par semaine, il y a une soirée au bowling de Diano qui est assez délicieuse avec des gens de tous âges et de tous horizons. Et voilà, si un jour quelqu'un se promène dans le coin... Je conseille vivement de passer une soirée au bowling de Diano.
Sur l'album 3, 2, 1, on se balade de riffs magnétiques qui nous aimantent du début à la fin sur le silence jusqu'à des jerks endiablés, comme on disait en 1966-67. Il y a des slows irrésistibles aussi, avec Amour Fou par exemple. Je sais que tu as passé un peu de temps au Nouveau-Mexique, quelques années, quand tu étais enfant, il me semble. Est-ce que tu as gardé des souvenirs précis de ces moments-là qui réapparaissent dans les chansons de Junior, dans des ambiances musicales?
Oui, c'est un endroit qui est assez particulier, le Nouveau-Mexique, parce que c'est pas du tout aussi impressionnant, et c'est pas des paysages fous et magnifiques comme on peut l'imaginer de l'Arizona. C'est un endroit qui est très désertique, qui ressemble un peu à la Lune, je crois. C'est un endroit assez lunaire, ou même Mars, je saurais pas dire l'un ou l'autre. C'est très désertique et c'est des couleurs assez fades. Mais il y a une chose qui est assez merveilleuse dans cette région, au-delà du fait que c'est très peu peuplé, ça, c'est pas pour me déplaire, mais ce que je garde le plus de cet endroit, c'est que c'est un endroit qui est merveilleux pour conduire, parce que les routes sont immenses, le ciel est immense, il n'y a pas de grands immeubles, très peu de grandes villes et très peu de grands immeubles. Donc on a comme ça une perspective assez, assez géniale, et je crois que c'est de là que j'ai pris le goût un peu des musiques qui accompagnent un paysage. Je crois que j'ai écouté beaucoup de musique dans la voiture de mes parents et de ma sœur particulièrement, parce que j'étais ado et ma sœur avait quelques années de plus que moi, conduisait, moi pas encore. Et on écoutait beaucoup la radio, il y avait une radio Oldies qui jouait tout le temps dans la voiture de ma sœur, et on avait comme ça ce paysage complètement lunaire, martien, avec les chansons des Beach Boys, c'était assez magique. Et je crois que j'ai gardé en moi ce goût pour ce désir d'accompagner des road trips, et je crois que c'est un peu ce truc-là aussi, ce film imaginaire dont on parlait tout à l'heure, comme si on écrivait une BO pour un film imaginaire, je crois que c'est aussi pour un road trip imaginaire, c'est un peu les deux.
Dans un genre éclipse solaire, on avait tout pour se plaire, l'horizon entre le ciel et la terre.
On finira dans quelques instants la discussion avec un morceau qui commence comme la musique d'un film imaginaire, mais qui possède tout de même des paroles. Et à propos des paroles, il y a beaucoup de jeux sur les mots, sur leur sonorité. Là, je trouve que ça renvoie directement à une façon d'écrire qu'avait par exemple Serge Gainsbourg. Et le fait que tu te prénommes Anna, comme la superbe comédie musicale avec Anna Karina et justement Serge Gainsbourg, est-ce que c'est un prénom qui était prédestiné pour toi, pour que tu t'intéresses à une époque que finalement tu n'as pas connue?
Je ne saurais pas dire, mais c'est vrai que c'est un album que j'ai beaucoup écouté. Et je ne pourrais absolument pas dire que j'arrive à faire des jeux de mots qui arrivent même à la cheville des pires jeux de mots de Gainsbourg, mais c'est vrai que j'en suis très fan. Il faut que c'est délicieux, c'est une façon délicieuse d'écrire et de pouvoir raconter des choses drôles et en même temps dramatiques. Je trouve que c'est merveilleux, et aussi d'écrire des chansons qui sont pas forcément très claires, pas très évidentes, mais en même temps enfin tout ça mélangé, c'est vrai que tout ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et je trouve que j'ai un prénom assez joli pour le coup. Je trouve qu'Anna, parce que c'est un palindrome peut-être, je trouve qu'Anna c'est chouette, j'aime bien ce prénom.
Vous jouiez récemment avec Junior au Psychfest, dans plusieurs Psychfest au Royaume-Uni. Est-ce que la musique de Junior, quand elle est transposée sur scène, elle devient beaucoup plus psychédélique pour le coup que ce qu'on entend sur le disque?
C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que le concert apporte autre chose. D'abord parce que c'est difficile de rendre ce qu'on a fait sur disque en live, parce que j'ai une très petite voix, je chante très doucement, et que la batterie de Soigny prend une place assez phénoménale pour mon plus grand plaisir, et je crois pour le plus grand plaisir des oreilles du public aussi. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas toujours facile de rendre ces nuances-là sur scène. Et aussi parce que je crois qu'on s'emballe un peu, on est tellement enthousiaste dans cette conversation musicale, enthousiasmé par cette conversation musicale, qu'il y a quelque chose un peu d'un emballement des pédales, du space echo, de tout. Et je crois que peut-être effectivement on a tendance à donner plus, moins dans la nuance et plus dans une forme de fantaisie. Je crois qu'il amène un moment de légèreté, parce que je crois que les concerts, c'est fait pour ça. Même si j'adore la musique émouvante et qui donne envie de pleurer, j'aime pas forcément la jouer. J'aime pas forcément la jouer. Je trouve que c'est chouette de s'amuser en concert. Ça paraît un peu absurde de dire ça, mais je crois que ça se résume à ça. C'est pour les concerts, on trouve que c'est un moment d'amusement intense.
On imaginerait parfois quelques morceaux de Junior dans des films ou des séries, bon c'est déjà arrivé. Est-ce que Junior, le groupe, n'aurait pas envie aussi un jour de devenir un réalisateur de films ou une réalisatrice à trois?
C'est rigolo de poser cette question, parce qu'on se l'est déjà posé nous-mêmes, on se disait ce serait bien de pouvoir faire de la musique de film, mais personne ne voudra jamais de nous, alors il faudrait qu'on fasse notre propre film, on va réaliser notre propre film, un peu à la façon de Lee Hazlewood qui avait fait ce film Cowboy from Sweden. Je crois que ce serait très rigolo d'envisager, alors peut-être pas en étant la star du film comme Lee Hazlewood l'était, mais en tout cas d'imaginer un film comme ça, un peu loufoque, qui a ni queue ni tête et qui a un peu un prétexte juste pour faire de la musique. je crois que ce serait merveilleux de réussir à faire ça.
On va terminer en tout cas cette discussion avec ce morceau dans le dos, avec ces sons de clavier qui moi m'ont pas mal fait penser une rencontre entre deux géants de la musique de film, John Barry et Ennio Morricone. Est-ce que ça c'était conscient ou finalement c'est moi qui l'interprète ?
Non, je sais pas si on réussit, mais c'est des choses qu'on vise. Ça c'est des choses qu'on vise parce que d'abord on trouve que c'est merveilleux de pouvoir rendre hommage à la musique qu'on a aimée, qu'on a écoutée et de pouvoir s'en inspirer de façon parfois peut-être même un peu grossière. On se dit que c'est pas très grave, même si j'imagine qu'il y a des gens que ça offusque, et je peux comprendre, parce que c'est vrai que quand on aime beaucoup la musique, on n'a pas forcément envie que les gens piochent dedans. Mais nous, on le fait vraiment en se disant que c'est formidable d'avoir ce luxe de pouvoir rendre hommage et de faire une espèce, une nouvelle recette avec tous ces ingrédients qu'on prend de tout ce qu'on aime en réalité. Je crois que c'est un vrai plaisir qu'on éprouve à faire ça. Et c'est merveilleux que toi, tu l'aies entendu, par exemple.
Merci, Anna. Et puis, longue route à Junior.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir reçu.
de la musique pas rétro, mon œil, oui, c'était Junior à l'instant, le groupe de Anna Jean, troisième album 3-2-1, il est sorti il y a quoi, il y a 15 jours à peu près, vous l'avez entendu cette discussion parce que ça faisait partie d'une émission Dig Dig Diggers, l'émission hebdomadaire des radios de la Ferra Rock, mais vous l'avez même malheureusement pas entendu vendredi, donc voilà, j'avais envie de quand même vous la diffuser cette discussion. On va poursuivre l'émission maintenant avec un conseil d'amis, je vous propose ça de temps en temps, le mardi, le mercredi, ça dépend, c'est pas toujours le même jour, l'idée que peut-être je peux vous conseiller des choses, vous qui nous écoutez dans le grand tout, vous conseiller des expositions, des bouquins ou, bah oui, des émissions sur Canal B, pourquoi pas, et comme par exemple celle qui arrive très très vite, jeudi 26 septembre à 18h, peut-être entendrez-vous quelque chose qui ressemblera à ça, alors ça j'en suis même pas sûr, mais on en parle avec l'auteur de cette nouvelle émission sur Canal B, déjà vu, Pop 60s et au-delà. Cette émission déjà vue, c'est Jean Pop qui vous la proposera, n'est-ce pas Jean Pop ?
Bonsoir, merci, oui, c'est effectivement moi, je suis l'invité surprise.
Peut-on dire que cette musique a des cœurs élégiaques ?
Oh oui, 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 j'aime bien le mot élégiaque, oui, oui, parce que ça, ça sous-entend une certaine mélancolie et je ne vais pas commencer à pleurnicher dès mon arrivée, mais ça me paraît important, la musique mélancolique, oui, oui.
On peut dire qu'elle est élégante, cette musique, cette chanson intitulée Malmö, comme en Suède, il me semble.
Ah, oui, oui, je pense que c'est un travelogue, en fait, inspiré de la ville, la ville suédoise, effectivement, on dévoile le nom de l'artiste tout de même. Par les Heavy Blinkers, qui était un groupe, je pense qu'ils ont pas dû faire grand chose depuis longtemps. C'était un de ces groupes en fait qui est apparu à la fin des années 90 et qui a un des premiers. C'est pour ça que je les ai choisis aussi un petit peu lancé cette vague un peu rétro, très Beach Boys. Qui était finalement pas si courante que ça dans les années 90, que tu as dû vivre comme moi, hein, effectivement, nous sommes deux vieux briscards. Et justement, donc il y a un thème qui sera vraiment très présent dans mon émission, c'est l'imprégnation, si on veut, des années 60 sur les décennies qui suivent.
Alors pas du revival, peut-être, tu vas pas aimer ce terme-là.
C'est délicat, effectivement, parce que... À vue de nez, bien sûr qu'on pourrait appeler ça du revival, mais j'aime bien quand c'est un peu redigéré, réinvesti, quoi. Après, c'est sûr que je suis peut-être pas le plus moderniste d'entre vous, ou des futurs membres de la radio, mais l'idée, effectivement, c'est pas de faire la même chose. C'est d'évoluer, de faire des hybrides, Alors très rarement, je vais pas forcément faire des émissions électro non plus, hein, parce que c'est pas tout à fait mon truc.
Ou alors ce serait principalement autour de The Silver Apples, par exemple.
Voilà, ou des choses comme Broadcast, hein, qui touchent à l'électronique, mais bon, voilà, effectivement, hein, c'est un vaste sujet. Donc les Heavy Blinkers seront effectivement présents, peut-être pas dès l'émission suivante, mais la prochaine, très certainement.
Déjà vu, déjà entendu sur Canal B finalement, déjà vu, puisque tu as relevé un défi assez beau, je tiens à le préciser à nouveau, certains avaient entendu cette émission pendant les 40 heures de direct au mois de mai il me semble pour débuter la célébration des 40 ans de Canal B, tu savais venir t'installer à Rennes, tu avais envie de faire de la radio, on verra dans quelques instants que tu en as déjà fait ailleurs et avant, et donc tu avais fait une émission comme ça, en direct, la première à Rennes. C'était quoi l'idée du déjà vu ou du déjà entendu que tu nous faisais découvrir ?
Alors déjà vu, j'avais pas déjà le titre de l'émission en tête, hein, parce que je suis arrivé vraiment un peu comme ça. C'était Quentin, je crois que c'était toi aussi derrière cette proposition, et je vous en remercie d'ailleurs. L'idée c'était de un peu de reprendre les choses où je les avais laissées, parce qu'effectivement j'ai moi-même, j'ai officié, on peut citer les concurrents, enfin parce que ce sont des amis, ce sont pas des concurrents, Donc sur Radio Campus Orléans, j'avais fait une émission de 2002 jusqu'à 2015, donc quand même assez longtemps. Et j'ai voulu rejouer ça, mais en changeant un petit peu, en modifiant un peu la donne. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais un peu un ayatollah des années 60, et je pense que j'ai pas dû passer un titre ultérieur à 66, juin 66. Ensuite, j'ai un peu mis de l'eau dans mon vin, et puis maintenant, je me dis que il y a quand même beaucoup de choses intéressantes aussi de nos jours, et avec le temps, quoi, j'ai appris à apprécier, enfin, à m'imprégner de mon époque aussi et arrêter de faire le snob. Et
j'ai retrouvé cette phrase de toi, il me semble bien, sur un blog que tu as animé longtemps. J'adore le passé, c'est tellement plus reposant que le présent et tellement plus sûr que l'avenir.
Alors, c'est pas exactement de moi, c'est une citation d'un personnage du film de Max Ophuls, La Ronde. Mais effectivement, voilà, il y avait ce passéisme qui était clairement revendiqué, qui était même un petit peu mis en avant. Enfin, il y avait un rejet total du présent qui, maintenant, hein, comme j'ai dit, hein, sera. J'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai mûri.
Et c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu sur cette émission que tu avais faite ici en direct pendant les 40 heures, où tu étais revenu sur quelques échanges entre la musique folk et la soul. En revenant oui. Peut-être à des choses des années 1960-70, et puis en allant jusqu'aux années 2020.
Oui, jusqu'à la contemporanéité, effectivement. Oui, alors ce courant, bon, je ne vais pas revenir sur toute l'émission, mais qu'on appelle un peu folk-funk. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que non seulement la musique, en fait, a perdure, mais c'est aussi, je m'intéresse aux mouvements musicaux, mais également aux réappropriations nouvelles de choses qui sont passées, en fait. Alors, c'est souvent un peu pompeux, c'est souvent un peu titilleux, du genre le yacht rock, tout ça. Genre, il y a beaucoup d'étiquettes, de nomenclatures, mais ça me paraît intéressant. Parce que la musique finalement se recycle elle-même, quoi, à travers des nouvelles dénominations qui peuvent être discutables, mais n'empêche que ça redonne vie à la chose. Donc c'est quand même très intéressant de revenir sur ça, même si parfois c'est, voilà, je répète, il peut y avoir ce côté rébarbatif un peu prof, quoi, derrière, puis le côté digger, tout ça aussi, qui peut être agaçant. Mais il y a toujours moyen de faire revivre une musique, en fait, en retrouvant des cohérences qui nous avait échappé à l'époque, ou qui avait échappé en tout cas aux auditeurs de l'époque, comme par exemple ce folk funk, quoi. Parce que c'est vrai que le folk funk, bon, c'est un mélange de folk avec des rythmes un peu groovy, c'est quelque chose qui a été théorisé 30 ans après que ça ait vraiment existé, quoi. Et moi je trouve ça intéressant, quoi.
C'est assez souvent le cas dans des musiques de niche comme ça, on les dénomme après qu'elles sont mortes, en fait.
Bien sûr, oui. Et puis comme on est à une époque, alors, qu'on pourrait qualifier de postmoderne, même si le mot lui-même n'est plus utilisé, parce que c'est déjà un mot du passé.
Ultimement ringard, postmoderne.
Oui, complètement. Mais on a une époque où, comme on redécouvre tout, on a besoin d'une certaine cohérence, finalement. On a besoin de guide. Alors là, je vais être très pompeux, quoi. Je vais me proposer d'être un peu le guide là-dedans, quoi.
Je te rappelle quand même que ton pseudonyme, c'est Jean Pop, quand même, qui est un petit écho de l'Église catholique de et de celui suprême qui dirigeait l'Église catholique il y a quelques décennies.
Oui, c'est vrai que c'est... Bon, j'ai trois papes de retard, mais non, mais bien sûr. Alors après, il y a un peu d'humour derrière ça aussi. Hein. J'espère. Si jamais je deviens un peu trop professoral, faudra me reprendre.
Et puis de toute façon, on sait très bien que le pape du pop, c'est Stéphane Vareg. Donc voilà.
La place est déjà prise.
La place est prise. On va encore écouter un peu de musique puisque ça sera l'objet. Tu nous parleras de cette musique-là aussi le jeudi soir, tous les 15 jours sur Canal B à 18h dans Déjà Vu. Et je redonne le sous-titre Pop 60s et au-delà, pour rappeler peut-être que tu iras peut-être un peu plus loin quand même,
oui,
que
c'est
la Pop 60s.
Avec un petit clin d'œil à mon ancienne émission Jean Pop 2, bien sûr, l'au-delà, etc.
On écoute, peut-être, tu m'as amené trois morceaux, on écoute un extrait des Heavy Blinkers, je te laisse nous proposer le
deuxième
extrait.
Alors peut-être justement un morceau des années 60, alors le groupe en lui-même, alors tu vas si vite comprendre que c'est pas un groupe forcément très important, c'est un groupe qui s'appelle The Good Earth Trio, qui est très largement oublié aujourd'hui. C'était une production, encore en partie, de Bob Crew, qui était le producteur des Four Seasons. Alors, pour faire l'histoire rapide, en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, c'est que c'est un titre de producteur, en fait. C'est un conglomérat de talents qui n'est pas tout à fait dans le cadre de la vision auteuriste qu'on a aujourd'hui de la pop, en fait. Par exemple, les années 60, on va parler de Brian Wilson, le grand génie, Paul McCartney, et il y a d'autres noms qu'on va qualifier de second couteau, parce que, bon, voilà, c'est des types un petit peu à la traîne, mais de types plus grands qu'eux. Et moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop pour la simple raison que la pop, c'est une question d'immédiateté, de 45 tours, souvent de titres uniques. Un groupe peut être génial pour un seul titre, à mon avis. Et je m'inscris un petit peu en faux par rapport à cette tradition auteuriste qui veut que Brian Wilson, c'est génial, les autres, c'est des petits moutons qui suivent. Oui, Brian Wilson est génial, mais il y a plein d'autres titres géniaux, y compris de second couteau. Et donc ce titre-là, de The Good Earth Trio, je trouve que c'est un titre génial, alors qu'aucun des participants n'est un génie en soi. Les compositeurs sont un peu oubliés, le producteur, c'est Bob Crew, qui est quand même assez génial, mais bon, on en parle moins aujourd'hui. Les interprètes, on n'en a strictement rien à cirer, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, quoi.
On écoute The Good Earth Trio, The Spring of My Mind.
In the spring of my mind, you are there, bringing yellow flowers in your hair, and the flowing stream of a well-kept dream and love in the spring of my mind. With the spring of your mind comes a dawn, a feeling that lives on and on and on, and oceans pray on a sunny day and now, for the things you can find in the spring of your mind. I can hear the sunny children everywhere. I can see the world around me, it's all there.
Vous devriez voyager dans l'espace aussi bien que dans le temps, j'imagine, dans l'émission Déjà Vu, qui commencera jeudi prochain, ce jeudi 26 septembre à 18h, avec Jean Pop, notre invité dans le conseil d'amis du jour. Alors, j'ai évidemment voulu en savoir un peu plus, et on a déjà commencé à discuter, et je me suis amusé à faire une sorte de petit questionnaire qu'on aurait pu trouver dans Salut les copains en 1966. Alors, c'est ni ton année préférée, ni ton magazine préféré, sans doute, mais...
Ah, 1966, bon. Si, bien
ça
sûr
va,
si.
C'est encore
bien. C'est peut-être ma deuxième année préférée.
Alors on va commencer comme ça. Tu serais plutôt année 1960 ou 1970?
60.
Ça c'est sûr. Est-ce que tu serais plutôt yacht rock ou sunshine pop?
Sunshine pop.
Et pourquoi?
Parce qu'il y a moins de cocaïne. Voilà. Et je suis contre la drogue.
Est-ce que tu serais plutôt Bob Dylan ou Bob Lind?
Ah, excellente question. Bah, Bob Dylan, pour la simple raison que Bob Dylan est trop connu et que je suis très snob et que j'adore Bob Dylan. Voilà.
Qui a fait un petit peu quelques petites incartades hors de la musique folk quand même.
Ah oui. Ces albums des années 60 sont... Oui, on touche un peu à ce qu'on pourrait appeler la Sunshine Pop, mais c'est un grand parolier en plus, un grand sens de la métaphore. Enfin, j'aime beaucoup ce mec. Et il est toujours vivant, toujours actif, et il fait des choses intéressantes encore à plus de 80 ans. Quoi. Et ça, c'est assez admirable.
Alors, je sais...
Comme Bob Dylan.
Oui, je sais, Jean-Pop, que tu aimes encore un peu certains groupes garage américains, sans doute
oui,
beaucoup d'ailleurs. Tu te verrais plutôt Paul River and the Raiders ou The New Colony 6?
Eh ben ça, c'est une question difficile parce que comme ils sont assez peu connus tous les deux. Alors, en ce moment, je dirais que par rapport à mes préoccupations actuelles, peut-être Paul River and the Raiders parce que c'est aussi tout un contexte californien aussi. Et la Californie me fascine depuis longtemps. Et il y a l'idée aussi que c'est un groupe qui avait pignon sur rue dans une émission et qui, malgré ça, faisait des choses très personnelles. Enfin, c'est un groupe assez admirable. Donc, peut-être sur la longueur, Paul River and the Raiders, mais New Colony 6 aussi, c'est quelque chose. Hein. Ouais.
On va revenir peut-être à ceux, éventuellement, qui auraient pu les influencer. On a parlé d'invasion britannique en 1963-64, quand les Beatles, les Animals, les Rolling Stones allaient conquérir un pays, sa jeunesse en tout cas. Tu serais plutôt les Trogs ou les Kinks?
Oh là là, c'est des questions vicieuses. Hein. Quand même, les Kinks sont quand même... non, je ne sais pas. Parce que les Trogs ont un génie aussi en particulier. Quoi. C'est un génie justement primitif qu'on a souvent un peu trop... qu'on a trop restreint en fait à une espèce de sauvagerie. Alors que ce sont des grands compositeurs. Moi, je crois à la mélodie très simple. Quoi. Et un morceau comme A Girl Like You, quoi, c'est un morceau en trois accords. Et je trouve qu'il y a un génie à faire un morceau aussi évident, aussi universel en trois accords quoi. Donc je me départage un peu parce que j'ai évidemment beaucoup de tendresse pour Ray Davies aussi, même si c'est un compositeur enfin pas même si d'ailleurs car c'est aussi un compositeur génial évidemment quoi.
Pourtant les frangins Davies arrivaient aussi à faire des morceaux en trois accords.
Oh, c'est quand même plus rare. Ouais, peut-être Dave Davies, mais j'aime un peu moins les morceaux de Dave Davies pour être honnête. Je trouve qu'il n'a pas le génie de Rick Presley.
On va penser à des musiciennes maintenant. Tu aurais plus d'affection pour les Shangri-Las ou pour les Ronettes?
Oh, c'est difficile aussi ça. Bon, dans l'absolu, peut-être les Shangri-Las, parce que c'est, elles ont le côté mélodrame adolescent, je sais pas, une espèce de photogénie aussi un peu. Alors les Ronettes aussi, hein, c'était quelque chose à voir quoi. Mais qui me parle peut-être plus quoi. Il y a quelque chose d'un peu plus pseudo littéraire et mais justement qui fait appel à la rêverie quoi chez les Shangri-Las et qu'on trouve un petit peu moins chez les Ronettes. Mais les deux sont géniaux. Alors ça c'est vraiment sous la torture que je choisis. Là.
Alors, c'est un test de tortionnaire hein, que je te propose là évidemment. Tu parlais de la production de Bob Crew tout à l'heure. À ce propos, tu irais plutôt vers Phil Spector, alors pas pour la drogue, pour la production ou vers Lee Hazlewood.
Ni pour le rapport aux femmes. Hein,
ou vers Lee Hazlewood en tant que producteur.
Alors, Lee Hazlewood, je connais finalement relativement peu, enfin, évidemment que je connais, hein, parce que je suis quelqu'un de très érudit, mais c'est quelqu'un pour à qui je ne me suis pas toujours très suffisamment intéressé, à vrai dire, parce que j'ai mes petites failles aussi, évidemment. Alors, par contre, en tant que producteur, j'aime beaucoup, parce qu'il a une production très claire. Et autant je suis admiratif de Spector, autant j'ai quand même une affection pour les productions plus limpides, plus claires, où les instruments sont un petit peu séparés. Voilà. Alors, je vais faire une pirouette, je vais en citer un troisième. Pour moi... quelqu'un qui est génial et dont on parle pas souvent, c'est Lou Adler, le producteur des Mamas and Papas, parce que lui, il a une production très très chargée, mais très claire en même temps, quoi. Et ça, je trouve ça admirable.
Aidé en ça par toute une escouade de musiciens du Capitole, quand même.
Oui, il n'est pas tout seul. Oui.
Et pour terminer hein, ce mini-questionnaire, on est en Californie, on est dans les années 1960. Tu aurais plus de plaisir à voir un concert de The Seeds ou de The Doors? Peut-être le même soir, d'ailleurs.
Oui, alors ça dépend de ce qu'on a pris. Non, je vais être très honnête, les deux ne font pas partie de mes groupes préférés, mais je pense qu'il y a moyen de plus rigoler à un concert des Seeds.
Pour véritablement terminer ce test-là, je suis allé chercher un test de personnalité que tu avais toi-même proposé à quelques invités. J'en ai gardé que deux questions. C'est sur Jean-Pop 2, ça existe encore. Vous chercherez sur Google ou sur DuckDuckGo si vous ne voulez pas laisser de traces dans vos recherches Internet. Alors, première question, afin d'asseoir votre réputation d'esprit libre, vous devez jeter un disque par la fenêtre. Lequel choisissez-vous ? A, un disque de Nick Drake, B, un disque de The Velvet Underground, C, un disque de The Joy Division ou D, un disque de The Smiths ?
Alors, j'ai eu pendant très longtemps, j'étais très agacé par la réputation du Velvet Underground. Alors, de manière souvent un petit peu partiale et souvent avec beaucoup de mauvaise foi. Mais c'est un groupe qui peut m'ennuyer assez facilement. Donc, je vais insister toujours dans cette posture un petit peu, mais cette position pour dire qu'effectivement, il y a des jours où je jetterais bien un disque du Velvet Underground par la fenêtre. Ne me jetez pas la fenêtre pour autant, parce qu'il y a quand même des choses que j'aime bien.
Peut-être en entendrez-vous dans déjà vous des morceaux du Velvet Underground. Bon, on termine donc ce questionnaire avec, encore une fois, un choix que tu as proposé, plutôt cornélien. Laquelle de ces années a vu naître le plus de disques émouvants ? 1964 en petit A, 1966 en petit B, 1967 en C ou D, 1969 ?
Alors aujourd'hui, je répondrai sans hésiter 1964. Parce qu'en fait, bon alors, je vais encore plus en arrière avec le temps qui passe, mais de disque émouvant, parce qu'un disque ne peut être émouvant que s'il est court, à mon avis, et 64, c'est vraiment l'année des singles, quoi. Donc, alors 66 aussi, partiellement, mais 66, c'est des choses qui déjà s'éparpillent un petit peu, alors que 64, on est dans une année à tube, quoi. Tu parlais des Ronettes, des Shangri-Las tout à l'heure, enfin voilà, quoi, ils sont... Et pour moi, c'est vraiment l'essence de la pop, c'est le 45 tours, et donc 64, c'est l'âge d'or du 45 tours, quoi.
Vous savez à peu près maintenant à qui vous avez affaire, vous qui nous écoutez dans Le Grand Tout sur Canal B. Jean Pop animera donc dès jeudi, dès 18h, cette émission déjà vue. Alors tu le dis à la française ou à l'anglaise ?
Oui, à la française, hein, on va pas. Je suis déjà assez snob comme ça, si en plus je prononce.
On va écouter un dernier titre de cette sélection en trois titres seulement. Vous avez entendu tout à l'heure The Heavy Blinkers, puis il y a quelques minutes The Good Earth Trio. On va terminer avec un groupe lui aussi presque contemporain. Je ne sais pas s'il existe encore ou il a existé il n'y a pas très longtemps.
Il est complètement contemporain puisque c'est un album, en fait, l'album que j'ai choisi est sorti en 2024. Donc c'est un groupe alors, qui commence à dater, c'est les Raisonnards, un groupe de l'Arizona mené par un certain Matt Rendon, qui maintenant est un quinquagénaire pur jus, voire sexagénaire peut-être, puisqu'ils ont commencé à la milieu années 90, je pense. Et voilà, alors c'est un album qui n'est même pas sorti en France. Donc encore un peu de snobisme, encore un petit peu, là. Mais dont j'ai extrait ce titre qui, à mon avis, est un des tubes pop de l'année, quoi. Une espèce de tuerie, quoi. Mélodique, et, enfin, rythmique, enfin, c'est vraiment euphorisant. Et bon, voilà, parce que c'est un de ces groupes que je continue à suivre, parce que c'est. Enfin, bon, il coche un peu toutes les cases de ce que j'aime, comme on dit aujourd'hui, quoi.
On te retrouve jeudi soir, j'ai cru comprendre à travers un post, comme on dit, sur le très vieux réseau social Facebook, le réseau social d'avant.
Pour les vieux. Comme
d'avant, nous. L'après, en tout cas, que tu nous proposerais peut-être quelques découvertes. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu les titres que tu proposeras, ça arrivera souvent, hein, j'imagine. Une sorte de voyage sur une planche, mais par des musiciens qui n'auraient pas forcément mis les pieds sur une planche.
Alors il y aura de ça, mais l'idée en fait, déjà vu, l'idée un petit peu un peu malicieuse derrière ça, c'est que comme on me reproche souvent de passer des seconds couteaux, bah là je vais assumer, et je vais passer justement donc des seconds couteaux des Beach Boys en fait, et y compris des groupes qui n'ont absolument jamais posé de pied sur une planche de surf et qui n'ont même jamais vu la mer.
Eh bien c'est possible. Merci beaucoup Jean-Pop.
Merci à toi.
À jeudi, 18h, bientôt, si vous n'avez pas l'occasion de l'écouter en direct sur Canal B, bien sûr, le contenu sera sur le site canalb.fr. On écoute donc les résonances que tu nous présentais il y a quelques minutes. One Nobody Knows. À jeudi.
À jeudi, merci.
pour terminer cette émission Le Grand Tour, que vous retrouvez sur Canal B du lundi au vendredi en direct de 17h30 à 16h30 à 17h40. Dans ce sens-là, ça marche un petit peu mieux. Eh bien, on va entendre les deux albums découvertes pour les radios de la Ferrarock, Fédération des radios associatives musiques actuelles, une trentaine de radios, dont Canal B en France, en Belgique et au Québec. Et on va entendre dans un instant les très talentueux et imaginatif Anna qui réinvente la pop baroque en la modernisant tout de même, évidemment. Alors on n'est pas ici dans des copieurs de The Left Banker ou des Beatles période Sgt. Pepper, non. Là ils sont plutôt genre à mélanger leur pop et bien de folk, de musique un petit peu plus noisy par moment, un peu plus rythmique aussi de temps en temps. On écoute un extrait de The Fun toute cette semaine, et aujourd'hui eh bien c'est ce morceau que je vous propose immédiatement, le morceau Concrete. Toutes les infos autour de cet album de Anna sur ferrarock.org. Extraordinaire titre du groupe Anna sur leur album The Fun, choisi pour vous par les radios de la Ferrarock cette semaine. Vous retrouverez toutes les informations sur ferrarock.org. On termine l'émission Le Grand Tout du jour avec un autre album qui vous est mis dans les oreilles par la Ferrarock, celui de We Hate You Please Die, Chamber Songs. Il est plutôt question de punk de chambre que de musique baroque de chambre là-dessus. Et on a la possibilité, grâce à la Ferrarock, eh bien, de vous offrir quelques places, peut-être pour une soirée-concert à Paris, à la Maroquinerie le 7 novembre prochain, où justement We Hate You, Please Die seront en concert. Donc allez faire un tour sur canalb.fr. On écoute ce morceau Hero, partagé dans ses influences entre le punk et puis les groupes d'obédience Riot, Punk et Riot Girls. We Hate You, Please Die, Hero. Nous on se retrouve mercredi pour une nouvelle émission, Le Grand Tout sur Canal B. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. TV shows, you can see that weird girl is actually the core.